Aujourd'hui, comme invité passionné, on reçoit un entrepreneur à succès. Il a cofondé la plus importante centre d'appel au Canada, ainsi qu'une entreprise technologique présente dans plus de 75 pays. Il a investi dans plusieurs dizaines d'entreprises, dont BoostMe, une application de dépannage automobile. Il est connu du grand public et il s'est fait connaître lors de sa participation remarquée à l'émission « Dans l'œil du dragon » à Radio-Canada. Il est aussi auteur de 2 livres, « Apprendre ou à laisser, les conseils d'un dragon pour réussir » et « L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. » Je ne sais pas si vous savez de qui je parle, mais on va commencer à discuter et j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui dans le podcast Wake Up Call, François Lanvol.
Salut François, ça va bien?
Ça va bien, Roxy, toi?
Ben oui, super. Et merci, je te le disais, là, même pas 30 secondes, mais merci d'avoir accepté cette interview-là. En plus, tu ne savais même pas c'était quoi, tu ne connaissais pas ça, puis toi, tu t'es lancé. Puis merci à toi d'être là. Puis honnêtement, j'ai hâte de cette entrevue-là. J'avais super hâte parce que on te voit, tu sais, tu es très, très, très actif sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Tu partages souvent ton point de vue entrepreneurial, les enjeux et tes choses. Puis moi, ça me fait capoter, j'aime ça. Des fois, tu viens me challenger sur des points de vue que j'avais pas pensé et tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'avais hâte parce que je vais y aller plus dans le côté que tu parles moins, qui est le mindset. Tu sais, vraiment, c'est le parcours et ces choses-là. Puis tu es plus rentré dans, pas juste les émotions, mais qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Fait que moi, je vais aller directement au but. Là, on va pas passer par 4 chemins. Ça a été quoi, François, ton wake-up call il y a je sais pas combien de temps pour te lancer en affaires?
Bien, les wake-up calls, on en a plusieurs dans toute ma carrière. Et le vrai wake-up call que j'ai eu, moi, il s'est passé à 33 ans. J'ai 51, donc c'est passé il y a 18-19 ans.
OK.
Et tout simplement, c'est que la blonde que j'avais dans ce temps-là, qui est la mère de mes enfants, je ne suis plus avec, à ce moment-là, elle est enceinte, on vient s'acheter une maison et je ne suis pas encore en affaires.
OK.
Ça presse. Parce que moi, là, depuis toujours, là, j'ai jamais dit aux gens que je voulais être un joueur de hockey. J'ai jamais dit que je voulais être un pompier, policier, puis faire du rodéo. Je veux être entrepreneur.
Mais tu l'étais pas.
Ben non, parce que je suis comme tout le monde. J'attends la bonne idée. J'attends le bon moment. C'est la même chose pour faire des enfants. T'sais. À quel moment qu'on attend pour avoir des enfants? On attend d'avoir une bonne job. On attend d'être stabilisé. On attend tellement. Il y en a qui finissent par passer à côté, puis c'est bien correct. Mm-hmm. Mais la même chose en entrepreneuriat. C'est que t'attends, puis tu cherches la bonne idée. Non. Puis tu dis à tes amis, je vais me lancer en affaires, mais je vais attendre le bon moment. Puis tu vas voir, moi, je vais être millionnaire, puis ça va rouler mes affaires. Mais ça, dans le fond, on s'achète du temps quand on fait ça. Ouais. On a peur de foncer. Et à un moment donné, ma blonde, elle me dit, je suis enceinte. On vient s'acheter une maison. J'ai fait comme, oh boy. Là, je suis pas en affaires, puis ça se passera pas. Et j'ai dit à tout le monde, parce que tu sais, si tu veux réaliser quelque chose, t'es bien mieux de le dire à tout le monde. À un moment donné, tu te mets tellement de pression, t'es obligé de le faire.
Ouais.
Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, je me suis mis à vitesse grand V de trouver la solution, de trouver la grande idée, l'idée géniale, l'idée qui va me faire passer tous mes jours, mes nuits, toutes mes pensées vont aller là-dedans. Et en attendant, j'ai rencontré aussi un partenaire, Georges Karam, qui est encore mon partenaire aujourd'hui, qui lui revenait du Liban.
Okay.
Donc, il revenait du Liban. Moi, je reviens de travailler de Toronto. Ma blonde est enceinte, lui a 2 enfants. On ne veut plus travailler pour quelqu'un. On dit, parfait, on va faire de la reconnaissance de la parole. On va utiliser, nous autres, la voix pour aller sur Internet.
Okay.
Quelle idée merveilleuse! OK? Sauf qu'on était 20 ans en avant de notre temps.
Ouais.
Parce qu'une bonne idée, il faut qu'on soit maximum 1,5 à 2 ans en avance de notre temps si on veut avoir un gros bang. Parce que par le temps que tu montes ton idée, par le temps que tu te prépares, bien, puis que tu montes ton entreprise, que tu vas chercher tes employés, que toute ta structure est faite, ça prend à peu près 2 à 3 ans.
Ouais.
Et bon, la reconnaissance de la parole, comme aujourd'hui avec Siri, avec Google Home, avec Alexa, on commence à l'utiliser.
Toi, c'était 20 ans en avance.
On faisait ça en l'an 2000. Donc, j'étais 3 ans avant de mon temps. C'était une très bonne idée qui est devenue une très mauvaise idée. Mm. Mais ce que je dis tout le temps aux gens, en affaires, il n'y a pas de plan B. Donc, s'il n'y a pas de plan B, il faut que tu passes de ton plan A, qui était la reconnaissance de la parole, à un autre plan A. Donc, on a abandonné cette partie-là et on est retourné faire ce qu'on faisait avant. Moi, j'étais consultant dans le domaine des centres d'appel.
OK.
Et je suis retourné faire la consultation dans le domaine des centres d'appel. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Ce n'était pas mon choix parce que faire la consultation, pour moi, puis je m'excuse à ceux qui sont consultants, là, qui nous écoutent, pour moi, ce n'est pas être un vrai entrepreneur. Parce que pour moi, pour réussir en affaires, il faut être capable de se dupliquer. Et comment on est capable de se multiplier? C'est en facturant quand on dort. C'est une image, là, parce qu'il faut facturer tout le temps du jour. Donc, ça veut dire qu'on faut bâtir quelque chose qui va rouler sans nous. Lorsqu'on est consultant, on se présente au travail, on fait une heure, on facture une heure. On n'en facture pas deux, à moins de faire de la fraude. Donc, on ne peut pas se multiplier. Et donc, je suis retourné faire ça en attendant. Pour une fois, parce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien et ne sont pas encore en affaires, une fois lancé, le plus dur, là, c'est de plonger. Écoute, tu es dans l'eau, là, est froide, l'eau, OK? Mais tu es dedans. C'est que quand tu sautes dans l'eau la première fois, tu dis « Ouf! Hein? » Ça surprend. Mais écoute, dedans, tu bouges un peu, puis plus ça tu bouges, finalement, tu te dis « Ben, écoute, elle n'est pas si froide que ça. » Ben, c'est la même chose en affaires. Donc, écoute, qu'on est là, il faut trouver une solution. Ça a pris quand même 2 ans avant qu'on trouve l'autre plan A, qui était le centre d'appel, qui est arrivé par hasard. Mais il n'y a pas d'hasard dans la vie, mais on avait préparé ce hasard-là. Il est arrivé, puis bingo, ça a décollé. Donc, oui.
Vas-y, continue.
Non, mais c'est ça, c'est dans le fond, c'est qu'on n'avait pas prévu se lancer dans le domaine des centres d'appel. Il y a une opportunité, on a dit oui, alors qu'on n'avait pas de bureau, pas d'équipement, pas de système téléphonique, mais il y avait une opportunité qui s'est présentée. Et lorsqu'une opportunité se présente, il faut la saisir parce que quelqu'un d'autre va la prendre. Ouais. Donc, on l'a pris et on a monté un centre d'appel de zéro en 2003. À 2012, lorsqu'on a vendu, on avait 2500 employés. Wow. Donc, puis aujourd'hui, bien, ça continue à prendre l'expansion. J'ai tout vendu ce qui me restait en 2016. Entre-temps, j'ai lancé un paquet d'autres entreprises parce que c'est la plus dure, la première qui est la plus dure. Après ça, ça va super bien.
Ah, j'aime ça t'entendre dire ça parce que des fois, les gens ne comprennent pas aussi que c'est... T'as acquis tellement de choses et d'expérience et de knowledge dans ta première qu'après ça, c'est, tu le dis, c'est qu'on est capable de, pas de dupliquer, mais de transmettre un peu ces connaissances, ces acquis-là dans une...
Oui, parce que des autres entreprises, tu sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Tu sais quand est-ce qu'il faut que tu persévères, quand est-ce qu'il faut que tu t'acharnes. Et un coup que tu as compris des grands principes de base, ça ne veut pas dire que tu vas avoir du succès parce qu'à la fin, ça prend un produit que les gens vont acheter. D'ailleurs, 80% des entreprises qui ferment en dedans de 5 ans, c'est tout simplement que le produit n'était pas adapté à la clientèle. Mmh. La clientèle n'en voulait pas, à part nos amis. Parce que ce qui se passe, là, non, mais c'est vrai. Tu sais, mettons, toi, tu as une très bonne idée. Tu es merveilleuse, ton idée. Tu penses à ça toute la nuit. Tu te réveilles le matin et là, tu dis à ton chum, ta blonde, n'importe qui est à côté de toi, j'ai trouvé mon idée d'entreprise. Et là, tu dis, je vais faire du savon. Et là, tes amis te regardent et vont dire, hey, c'est, tu sais, un peu mal à l'aise, ils ne veulent pas te décourager. Dans le fond, ils ne veulent pas te dire, là, hey, ton idée, c'est de la merde. Okay? Ils ne veulent pas te le dire. Donc, ils disent, hey, c'est pas pire. Si jamais tu entends, c'est pas pire, sauve-toi en courant. Ils sont en train de te dire, c'est vraiment pas bon, mais ça ne me tente pas de te le dire. Donc, peux-tu trouver quelqu'un d'autre qui va te dire non? Oh, et toi, ce que tu veux faire, tu viendras pour me voir, moi, pour me parler de ton idée de savon, parce que je vais te le dire que c'est pas...
C'est de la merde.
C'est égal. OK? C'est de la merde. Donc, je vais te le dire. Donc, tu viendras pas me voir. Tu vas aller chercher les gens qui vont te rassurer, réconforter dans ta décision de te lancer en affaires. Et c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui se lancent alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû se lancer. Et moi, je suis un peu direct, puis c'est ce que j'aime dire aux gens, leur vérité. Si tu me le demandes, je vais te le dire ce que j'en pense. Je vais dire ce que je pense que. Puis, ça se peut que je sois complètement dans le champ, puis c'est tant mieux. Puis, des fois, ben j'ai raison, et les gens ne me parlent pas pendant 1 an et demi, 2 ans, puis après ça, ils viennent me revoir. Puis, c'est arrivé plusieurs fois, là. Donc,
pas.
Ben, c'est correct, ça fait partie du processus de se lancer en affaires. Moi aussi, j'en ai eu des idées de poche, là, ou des idées que, tu sais, avoir une bonne idée, c'est bien. L'argent n'est pas toujours nécessaire pour se lancer en affaires. En fait, c'est pas obligatoire, c'est même pas important. Sauf qu'à un moment donné, on a lancé une radio en ligne. Un peu ce que Cube Radio fait aujourd'hui, on le fait encore là en 2004. L'affaire, c'est que c'était bien intéressant, mais c'est encore là 3 avant-gardistes. Mm-hmm. Et pour le faire, connaître des gens, cette radio-là, il aurait fallu mettre énormément d'argent en marketing. On a eu l'argent pour le développer, on n'a pas eu d'argent pour faire le marketing, on a tiré à plug tout simplement. Et pourtant, c'était une idée encore là géniale. Mais on avait oublié qu'à un moment donné, il fallait le faire connaître. Et lorsqu'on est les premiers dans un marché, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est plus du marketing qu'on fait. On évangélise les gens pour faire connaître, pour leur dire, « Hey, ce crayon-là là, que j'ai dans mes mains, là, ben, il est rouge, puis il va tellement mieux que les autres. » Oui, ben, il ne crée pas mieux. Non, non, parce qu'il est rouge, je vais te le dire qu'il va mieux. Et on est obligé d'expliquer, non pas que c'est un crayon, mais pourquoi qu'il est rouge. Et ça, on perd du temps et énormément d'argent.
Oui, c'est différent. Ouvrir un marché un peu que de rentrer quand il est déjà ouvert, right? C'est...
C'est bien mieux d'avoir de la concurrence. Si tu n'as pas de concurrence dans ton marché,
exact.
Raison, là, tu viens d'inventer le bouton à quatre trous, puis profites-en, tu vas devenir milliardaire. Ou tu es en train de frauder les gens, puis je suis en train de lire un livre qui s'appelle Bad Blood sur Elizabeth Holmes. Et c'est justement, elle avait inventé une affaire qui n'existe pas. Elle valait son entreprise près de 9 milliards, mais c'était de la fraude totale. Elle a convaincu des gens comme Walmart de mettre 125 millions, l'autre famille riche de mettre 150 millions. Tout le monde se garochait dessus, mais c'était de la frime. Il y a ça aussi. Donc, c'est soit que c'est une invention magique que tu as fait, ou tu es en train de frauder les gens avec du vent, un peu comme, tu n'as peut-être pas connu ça, toi, mais j'invite les gens à aller fouiller pour Briex. Briex avait trouvé le gisement d'or dans l'île de Bornéo, en Pacifique Sud.
Okay. Et
ça s'est passé dans les années 85 à peu près. Et j'avais acheté des actions de cette compagnie-là. C'était trop beau pour être vrai. Mais tout le monde investissait, tous les banquiers, tout le monde lui recommandait. La quantité d'or était comme 8 fois supérieure à ce qui avait jamais été trouvé dans le monde. Et ce qu'il avait fait, la personne, il avait salé vraiment avec une salière de la poudre d'or sur les échantillons pour frauder tout le monde. C'était trop beau pour être vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Mais je me suis fait avoir pas beaucoup parce que j'étais pas riche, donc j'avais mis seulement 1 500 $. Donc, mais 1 500 $ pour moi dans le temps, ben je pensais en faire 10 000, puis après ça, ces 10 000-là, en faire 100 000, mais c'est rien d'arrivé de ça.
Puis, mais j'aimerais ça savoir comment ça se passe dans ton processus de réflexion quand tu as une idée, toi. Tu sais, mettons, on le voit des fois, c'est quoi les questions que tu te poses? Comment tu réfléchis? Comment tu aboutis à idée de marde versus « Ah, qui faudrait que j'approfondisse sur cette idée-là? »
La passion, mais souvent la passion peut nous jouer des tours.
Ouais.
Dans la vie, la passion nous joue des tours, le coup de foudre nous joue des tours, et en affaires aussi, ça nous joue des tours. On est bien emballé au début, mais on ne se rend pas compte qu'il faudrait peut-être utiliser notre raison. Moi, ce que je dis aux gens, puis ce que je fais en premier, j'utilise ma raison. En premier, là, il y a une passion. Wow! OK? Là, mon cerveau se met à calculer, parce que je suis très mathématicien, puis il se dit, OK, ouais. Ça vaut-tu la peine? Vas-tu avoir du fun là-dedans? Combien d'années je vais passer? Est-ce que je vais aller dominer le monde ou je vais aller dominer le quartier d'Outremont à Montréal ou je vais dominer Montréal? Il faut que je me pose ces questions-là puis j'analyse le marché une fois que la passion est passée. La raison doit embarquer puis analyser ça froidement. Mais je ne fais pas de plan d'affaires. Moi, je ne perds pas de temps à faire des plans d'affaires. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un entrepreneur. Je fonctionne aux opportunités.
Okay.
Je fonctionne au pif. Je regarde le marché. Moi, le temps que je vais écrire un plan d'affaires pour analyser pendant un an qu'est-ce qui va se passer dans le marché, bien, le marché avance. Puis par le temps que mon plan est fini,
bien, il est à jour.
Puis là, les gens vont me dire, « Ouais, mais si tu n'es pas dans mon plan d'affaires, bien, you bet, si tu n'es pas dans ton plan d'affaires parce que la vraie vie n'est pas un plan d'affaires. » Tu sais, je veux dire, on même dans le monde du dating, puis l'entrepreneuriat puis la vie de couple, il n'y a pas une grande différence. Hein? Souvent, c'est la même chose parce que on se fait un « dream girl », un « dream boy », puis là, on se dit, hey, c'est ça que ça me prend. Mais on se rend compte que dans la vie, ça n'existe peut-être pas. Mm. Tu le rencontres peut-être à un moment donné, tu as le coup de foudre, mais peut-être que dans la tête, c'est pas la même chose. Puis ils ont des bébites, puis ils n'ont pas de bébites. Ou il y a toujours quelque chose. À un moment donné, tu fais des compromis.
Ouais.
Parce que finalement, tu es bien avec la personne. C'est la même chose en affaires. À un moment donné, tu dois trouver ta passion. Qu'est-ce qui va te faire travailler? Ça peut pas être l'argent. Je te le dis tout de suite, ce n'est pas l'argent. Oui, si on n'en fait pas, c'est plat. Si on en fait beaucoup, ça aide un peu pas mal à avaler. Mais sauf qu'à un moment donné, l'argent ne suffira pas parce que... Et ça me vient d'une phrase d'une amie qui était... ma première job était à Statistique Canada au gouvernement. Et ce que je voulais faire, ben j'étudiais à Ottawa. Bon, je vais travailler au gouvernement. Je voulais me lancer en affaires, mais je n'avais pas d'idée. Fait que j'ai dit, bon, allez commencer à travailler au gouvernement. C'était de l'entrée de données à Statistique Canada. C'est sûr que je n'ai pas étudié pour faire l'entrée de données, mais bon, il faut commencer quelque part. Et une de mes amies, à un moment donné, j'ai eu une promotion. Donc, je suis parti d'un salaire de 23 000 à 42 000. Mais 42 000, c'est en 89.
Ah oh, ouais, c'était
pas là. C'était à peu près l'équivalent de 60 000 peut-être aujourd'hui. Donc, j'ai 24 ans, je finis l'école, je fais 60 000 par année, je suis riche. Je peux aller m'acheter ma BM et ma vie est réglée. Je suis millionnaire dans ma tête. Je me souviens de cette fille-là, elle m'a dit, François, puis c'est une psychologue qui faisait de l'entrée de données avec moi, là, tu sais. Elle dit, François, elle dit, retiens ça toute ta vie. Toi, là, c'est pas l'argent qui te drive, tu vas t'emmerder toute ta vie si c'est juste l'argent. Hey, 2 mois après avoir eu ma job, je suis parti. Je m'ennuie à mourir.
C'est
ce que tu veux que je fasse, c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai quitté ma job, puis éventuellement, je me suis emmené à Montréal pour faire autre chose. Parce que c'était pas l'argent n'était pas assez suffisant pour me faire travailler. Puis des fois, je peux travailler gratuit dans mes entreprises pendant 3, 4, 5 ans parce que j'ai du fun, puis j'espère que ça va payer. Mais
ouais.
Il faut t'attendre longtemps, très, très, très longtemps.
Mais je suis contente de t'entendre parce qu'à un moment donné, tu avais marqué, moi, je suis très, ben, de toute façon, ma business et tout ce qui entoure ça, c'est beaucoup de, tu sais, d'être épanoui dans sa vie, de vivre avec passion, mais avec la logique, puis avec le bon sens, puis tu sais, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Puis à un moment donné, tu avais parlé de ça, comme la passion, à un moment donné, il faut la mettre de côté et tout ça. Puis c'est quoi la ligne pour toi entre passion et raisonnement? Tu sais, la ligne est où?
La passion, regarde, je fais beaucoup de sport. Donc,
ouais.
De mes passions, c'est de faire du sport.
Ouais.
Est-ce que je pourrais, j'ai déjà rêvé de vouloir faire carrière, soit au volleyball, soit de me faire commanditer parce que je courais des marathons. C'est jamais arrivé.
Ouais.
Ça, si j'avais suivi que ça, j'aurais couru toute ma vie pour pouvoir en vivre de ma passion. Ou j'aurais fait des produits alentour de ça.
Ouais.
Donc, ça, c'est un exemple de passion. Je peux être très bien passionné parce que, mettons, j'aime faire du tricot. Mais tant que tu n'en vends pas de la laine que tu tricotes, ben, c'est un hobby.
Ouais.
C'est sûr que la différence est là. Tu peux être passionné à faire quelque chose, mais c'est un hobby. Et à un moment donné, tu ne le sais pas et tu commences à en vendre parce que tu ne vends à tes amis, elle en a parlé à un autre. Il y a un des sites là, aux États-Unis sur Shopify qui est le top 10 des meilleurs vendeurs et la personne, ce qu'elle fait, elle fait des tuiles personnalisées. Des tuiles qu'on met sur le plancher, là.
Mm-hmm.
Donc, elle dessine à la main et elle en fait tellement qu'elle a une équipe complète avant des millions de dollars de tuiles. Elle a trouvé sa niche. Il y a une niche pour tout.
Ouais.
Tu sais, avant Noël, moi, ça fait des années que j'essaie de vendre du sirop d'érable. Puis, j'ai pas de coca, puis je m'obstine, puis je me chicane avec la fédération.
Ouais.
Puis, ma blonde, elle me dit avant Noël, regarde, on devrait faire un site transactionnel. Moi, je dis, on n'en vendra pas. Puis moi, tous les projets commencent petits. Moi, j'ai dit, on va en vendre un par mois, puis ça va être quelqu'un que je vais rencontrer d'une soirée qui veut m'acheter du sirop d'érable. Il m'a dit, ben, va en ligne, achète-moi en un, puis je te l'envoie, puis ça va me coûter 40$ de frais de shipping, puis j'en vendrai pas.
Ouais.
Je mets ça en ligne. Moi, là, je ne pense pas que je suis en train de bâtir un business. Là. Je fais juste trouver une solution à un léger problème, parce que c'est ça qu'on a, les entrepreneurs. Ça nous prend une solution à un problème. Le problème, j'ai trop de sirop d'érable, je suis pas capable d'en vendre. Je ne suis pas capable de faire vivre ma terre et l'employé qui est là à temps plein. Donc, ça veut dire que je débourse dans mes poches, je mets ça en ligne et ça part. Si j'avais voulu, tu sais, si j'avais dit, écoute, non, là, c'est important, je vais vendre sur en ligne, je vais mettre une équipe en place, on va faire un gros site transactionnel, puis il va y avoir du monde sur le shipping et toute la chose, j'aurais dépensé des millions de dollars.
Mm.
Regarde, dans ce cas-ci, j'ai dépensé 0$ en 2 jours sur Shopify, le site est monté. Là, j'ai fait comme, hein, ça marche, j'en vends. Ben, on va mettre mes livres. Ben, Colin, je vends mes livres. J'ai une autre compagnie qui s'appelle Boost Me. Je vais mettre des survolteurs. Je me mets à vendre des survolteurs à pleine pelletée. J'ai une autre compagnie qui s'appelle Undies des sous-vêtements. Je me mets à vendre des sous-vêtements. Là, je suis ici, on travaille de la maison. Puis, on envoie peut-être 30, 40, des fois 50 paquets par jour de commandes qui rentrent.
Mm.
Là, j'ai dit, ben, je suis déjà ici. J'ai déjà l'infrastructure. Donc, il y a quelques entrepreneurs qui voulaient que je les aide. Ils ne pensaient pas le mettre sur mon site. Moi, j'ai dit, ben écoute, je suis déjà à la maison, j'ai déjà l'infrastructure pour tout shipper ça. Ça va bien, ben, je vais mettre ton produit sur mon site.
Mm.
Bingo! Un premier produit, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Puis là, on en rentre à tous les jours des nouveaux produits sur le site. Ça va. J'aurais pu dire, hey, ça prend un Amazon québécois. Je vais mettre une infrastructure, une grosse entrepôt, moi, mettre des millions de dollars. Ou je le fais sans le savoir. Et là, je suis en train de générer des millions de dollars en chiffre d'affaires alors que je ne savais même pas que ça existait et que la possibilité était là. J'ai juste répondu une solution à un problème que j'avais, qui est devenu une entreprise maintenant, tout simplement. Donc, cette passion, bien définitivement, on trippe. Tu mets un produit en ligne, les gens commandent. C'est passionnant de voir que, hey, je suis en train d'aider quelqu'un. En même temps, je suis en train de bâtir une business. Lui, il n'avait pas de visibilité. Je lui donne la visibilité. C'est comme ça qu'à peu près toutes mes entreprises partent sur une petite affaire, puis on s'adapte, puis on pousse après ça la pédale au fond. Là, quand on voit qu'il y a une opportunité, on la pousse au maximum, puis on va voir dans quelques années où est-ce que ça va nous mener.
Puis, fait que toi, t'es plus du genre à conseiller les gens qui nous écoutent en ce moment de partir petit, puis après ça, tout le temps être en analyse puis grandir que d'y aller en grand coup de lancement?
Ça ne marche pas, les grands coups de lancement, parce que il reste qu'on va faire des erreurs.
Ouais.
On va faire un paquet d'erreurs lorsqu'on se lance, et t'es mieux de faire une erreur avec 10 piastres qu'avec 1 million. Regarde les erreurs qu'on a faites au tout début, on a envoyé avec Post Canada. C'est parfait, Post Canada. C'est pas une erreur d'envoyer avec Post Canada. Mais des fois, on avait 2-3 colis envoyés à la même place. On ne savait pas comment les faire. On imprimait le même shipping label, on remettait sur plusieurs boîtes. Jusqu'à un moment donné que toutes les commandes de la fin de semaine sont toutes revenues chez moi, au complet. Donc, parce que c'était pas la bonne façon de faire, mais on le savait pas la bonne façon de faire. Donc, ça m'a coûté extrêmement cher. Et les gens ont pas eu leur colis, donc je suis obligé de le renvoyer une deuxième fois et de comprendre le mécanisme. Mais ça, ça a pas coûté cher. Ça a coûté à peu près 500$, mais ça m'a pas coûté 500 000. Donc, c'est des petites erreurs comme ça qui se fait. À un moment donné, mon sirop, j'avais des cannes qui étaient faites en Chine, je le savais pas. Ils supportaient pas le transport. Ils arrivaient tout bossés chez les gens. Donc, une canne de sirop qui est tout bossée, ça marche pas. Donc, j'ai renvoyé un autre à mes frais. Donc, puis après ça, j'ai choisi mes bonnes cannes. Il y a un paquet de petits rodages comme ça qui peuvent te coûter 5-10$, ils peuvent te coûter 500 000. Et c'est ça que je dis aux gens, rodez votre système, puis laissez les opportunités, forcez les opportunités, mais laissez les opportunités s'établir. Ce que je dis, dans le fond, c'est qu'il faut aller vite, mais tranquillement. Mais laisse le temps aux choses de mûrir. Il y a quand même que tu regardes un fruit, pas en regardant qu'il va mûrir. À un moment donné, il faut que tu laisses le temps. Puis lorsqu'il est prêt, tu dois le cueillir. Tu peux y mettre plus de soleil. Tu peux l'aider avec des lampes. C'est sûr, tu peux le favoriser. Mais c'est la même chose avec une entreprise.
Fait qu'il faut quand même avoir un petit sentiment d'urgence pour pas laisser passer les opportunités. Mais en même temps, il faut laisser aller le processus, dans le fond.
Oui, mais lorsque tu vois qu'il y a une opportunité, tu rentres dedans.
Ouais.
C'est la même chose que lorsqu'on fait un pitch de vente. Si la personne nous écoute, on close ça tout de suite. Là.
Ah, c'est ça.
Tu le vois mener par le body language, puis c'est très facile. Si tu veux savoir que tu es en train de closer une vente ou pas en closer une, là, quand tu commences ton pitch, si en dedans d'une minute, ton interlocuteur te dit « Hey, wow, c'est bien intéressant ça, comment tu fais? » Tu sais que tu viens de closer. Niaise pas, là. Il vient de s'intéresser à toi. Si pendant 5 minutes, tu parles 10 minutes, puis tu ne poses jamais aucune question, tu perds ton temps, allume, arrête tout ça, ça ne vous donne même pas que tu essaies de patiner. La personne est en mode sauf qu'il peut, avec juste...
Je m'en fous.
OK, elle veut juste se sauver de là. C'est pas intéressant ce que tu lui racontes ou c'est pas intéressant pour lui ou pour elle. Sauve-toi. Mais sans dans deux minutes, la personne t'écoute et te pose une seule question. Puis c'est très simple. Admettons que j'ai une bouteille d'eau des îles Fidji.
Ouais.
OK? On s'entend, les îles Fidji. Mettons que c'est moi qui est derrière les eaux des Fidji.
Ouais.
Tu sais, regarde ça ici. Ça n'a pas de sens. On est au Québec. On est supposé avoir la meilleure eau au monde. OK? C'est ce qu'on entend. Mm-hmm. Et il y a une compagnie des îles Fidji qui vient nous vendre, avec les gros billboards, meilleure eau au monde des îles Fidji. On a l'impression, lorsqu'on ouvre cette bouteille-là, qu'on boit ça, puis on devient Superman ou Superwoman. Moi, je me sens, hey, je m'hydrate avec la meilleure eau au monde, parce qu'ils nous ont rentré ça dans la tête du marketing.
Ouais.
Maintenant, mettons, bon, j'ai fait le préambule sur les îles Fidji. Les îles Fidji, c'est moi. Donc, je te le présente. Je te le présente. Je dis, hey, Roxy, regarde cette bouteille-là. C'est fantastique. L'eau des îles Fidji, ça me coûte 5 cents ce qu'il y a dedans. La bouteille me coûte 10 cents. Le faire venir au Canada me coûte à peu près 15 cents en container et j'en vends 3 piastres. J'ai même pas fini ma phrase. T'es déjà, tes yeux sont en train de pétiller. Puis là, tu me dis, mais comment tu fais? Ben, je leur ai dit aux Québécois que c'est la meilleure eau au monde. Bingo! Je viens t'accrocher parce que je t'ai donné ma recette et tu vois qu'il y a une possibilité de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et en même temps, je te dis, mon coût d'acquisition de client est à peine 5 cents par bouteille. Mm. Toi, tu fais les calculs, tu les attends un peu, là, tu fais comme 2,5 piastres de profit par bouteille. Toi, tu veux savoir combien j'en vends. Là, on m'a dit, moi, j'en vends 10 000 par jour. Écoute, c'est sûr que tu vas investir avec moi. Là, je t'ai accroché, je t'ai donné tous les bons keywords. Et c'est ça qu'il faut faire dans toutes les relations qu'on fait, qu'on va avoir des deals. Intéresse-toi à la personne, essaie de trouver ses failles et garoche des affaires puis laisse-lui le temps de te poser des questions. Papa, encore là, je vais remettre ça comme dans un couple. Si j'arrive au bar puis je décide de te parler pendant une demi-heure, OK, tu regardes tes amis, tu regardes ton téléphone puis tu dis, si, puis tu s'est fermé, lui-là, là, OK? Ça marche pas. OK, ouais. Je pose au moins une question à un moment donné puis je te dis, puis toi, comment ça va? Si je te le pose pas, je suis pas intéressé. Je me cherche un public pour raconter mon histoire. Puis ça veut pas dire qu'on va que je vais closer une vente. Ben, ça veut pas dire que je vais avoir même une chance d'aller prendre un verre. c'est exactement, exactement la même chose. Et les gens l'oublient.
J'adore ça. Alors, on se ramasse quand même à tout le temps. À chaque fois que je t'écoute, je suis comme, OK, là, des conseils d'affaires et tout ça. Puis moi, j'aimerais ça savoir pour ceux qui nous écoutent en ce moment, les gens, ils trippaient. Là. Je sais, t'es pas sur Instagram. T'es-tu sur Instagram?
Ben oui, je suis sur Instagram.
Ah, j'essayais de te taguer, ça marchait pas. En tout cas, là, je vais
prendre. Ah, mais c'est parce qu'il y a un paquet de François Lambert, t'as un nom commun. Fait que moi, je m'appelle Frank underscore SBR.
OK, bon, là, je vais pouvoir tailler.
Mais... SBR, ouais. Parce que Frank, parce qu'à un moment donné, je travaillais aux États-Unis et François, c'était Françoise. Fait que regarde, je me suis appelé Frank. C'était mon email, Frank. À totnel.com. Puis il y en avait un paquet de Frank. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je fais du triathlon, swim, bike, run, SBR. Et ça dure depuis 30 ans. Fait que je le dis.
OK, mais là, je vais pouvoir te tailler là-dessus. Mais quand je l'avais annoncé sans pouvoir te taguer, les gens, ils ont capoté. Là, ça a commencé à vraiment. Il y avait hâte que ça sorte, cette entrevue-là. Et il y a une question que je leur demandais, qu'est-ce que vous voudriez que je pose comme question? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Et là, une des questions qui est plus survenue, c'est dans toutes tes années de carrière, ça a été quoi? Ouais. Le plus gros enjeu que tu as rencontré? Qu'est-ce qui était plus dur pour toi?
Le plus dur...
Ou le plus gros obstacle, ou peu importe. Quelque chose que tu te souviens que c'était comme, ouf, ça là était moins nice. Là.
Quand, à un moment donné, vers 2007, on s'était lancé en affaires en 2003, nos affaires vont très, très bien. Et à un moment donné, nos deux plus gros clients retardent les paiements. Pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois. Puis, une des choses en affaires, c'est que tu ne dois pas montrer tes faiblesses si tu vas avoir des contrats. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un, mettons, un Bel Canada, un Fido, puis lui dire, viens, moi, je suis un peu serré financièrement, mais je vais faire tes affaires. Les autres veulent s'assurer, s'ils te donnent 500 agents pour prendre des appels, que tu as les reins solides, que tu n'auras pas de problème financier, puis que les autres vont se ramasser, plus personne pour prendre des appels. Et c'est arrivé en 2007, vers le mois d'octobre, et ils nous devaient à peu près 3 ou 4 millions de dollars, beaucoup, beaucoup d'argent. Et, tu sais, des fois, à l'œil du dragon, j'avais deux bras croisés, puis j'ai emprunté, t'as hypothéqué ta maison pour te lancer en affaires, quel imbécile! Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé. La banque ne te prête plus, t'hypothèques ta maison, t'es endetté à l'os et t'es pas capable de payer tes employés. Et je me souviens, cette fois-là, c'était en octobre, j'étais en auto, puis je parlais avec mon associé Georges, et je broyais en continuant. Je m'en allais vers mon centre d'appel à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et je pleurais, je me disais, c'est pas vrai. On a bâti une belle entreprise, elle est rentable et on va être obligé de fermer avec 4 millions de comptes à recevoir. C'est pas vrai que ça va se terminer à soir, mais je savais que ça se terminait. Pour moi, c'était fini, là. Il n'y avait pas de solution. Et finalement, on a décidé d'appeler nos fournisseurs pour là, être transparents. Pour leur dire, Pierre, les boys, on l'a joué la game, là, mais on n'est pas capable de supporter 3-4 millions. Je ne me souviens pas comment c'était, mais c'était assez élevé. Et ils nous ont dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Donc, il dit, écoute, ça n'a pas de sens qu'on ne vous paye pas pendant trois mois, quatre mois. Là. Tu sais, maintenant, il faut vous payer, là, c'est normal. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ils nous ont payé à chaque semaine, puis on n'a plus jamais eu de problème financier.
C'est
donc,
reparti.
À un moment donné, il faut juste que tu mettes ton ego de côté.
Sois
transparent. Et ça, transparent avec tes employés, t'es transparent avec tes fournisseurs, t'es transparent avec tes clients. Dans la transparence, on s'entend. Là, tu ne montres pas tes chiffres à tout le monde. Tu vas dire, regarde, je viens de faire un million de profit, moi, ici. Là.
Non, non, non. Être transparent.
Être transparent, c'est de dire la vérité dans quelle situation tu te trouves aux bons interlocuteurs et ça a marché. Donc, ça, c'est un moment le plus dur que j'ai trouvé, c'était celui-là. Et le deuxième plus dur, c'est quand je suis devenu tanné de mon entreprise. C'est bizarre. T'sais, tu bâtis. Dans le fond, c'est que mon rêve était de bâtir une grosse entreprise puis de la vendre. Puis, tu sais, vraiment de bâtir quelque chose de très gros. On est très gros et je m'emmerde. Mon rêve n'était pas ça. J'ai fait comme, mais c'est pas ça que je voulais. Tu sais, moi, ce qui me tapait ses nerfs lorsque je travaillais pour des grandes entreprises, c'est d'être obligé de jouer des jeux de pouvoir pour devenir vice-président, vice-président exécutif, directeur, tu sais, de monter les échelons. Puis là, tu es obligé d'aller jouer du coude tout le temps. Et là, à un moment donné, je me ramasse dans une grosse entreprise puis je vois tout le monde en bas de moi. Jouer du coude. J'ai fait comme, ah, c'est dégueulasse, c'est pas ça que je voulais. Tu sais, c'est drôle parce que c'est ça que je voulais bâtir une grande entreprise, mais je ne voulais pas l'opérer. Et je me suis rendu compte que, autant que c'est une très belle entreprise puis que je respecte parce qu'elle m'a donné ma liberté financière, mais bâtir une grosse entreprise n'est pas pour moi. Aller travailler pour une grosse entreprise n'est pas pour moi. Je refuserais, j'ai déjà eu des offres pour être président de très grosses entreprises ici à Montréal. Et j'ai dit non, ça ne m'intéresse tout simplement pas. Je suis un bâtisseur d'entreprise, je ne suis pas un opérateur. Donc, me présenter à chaque jour les mêmes problèmes, les mêmes affaires, ce n'est pas moi. J'aime mieux bâtir des entreprises que les rouler.
Pourquoi, selon toi?
Ben, c'est plus le fun, c'est plus challengeant, c'est la chasse,
d'aller...
Non, mais c'est ça, c'est que tu prends quelque chose et tu le bâtis puis tu l'amènes à un niveau que personne d'autre a fait. C'est pas comme si tu prends le bébé de quelqu'un puis que tu continues à l'adulte de quelqu'un. Moi, j'aime mieux prendre le bébé puis le modeler puis débroussailler, ouvrir des terrains, ouvrir des chemins. Tu sais, dans le fond, je pense que des années de nos arrière-arrière-grand-pères, j'aurais été un défricheur. J'aurais aimé ça, aller défricher dans le bois. C'est là que je me sens à l'aise, que je me sens bien. Puis des fois, je m'épuise. Je me dis, pourquoi je refais ça encore? Pourquoi je relance encore une autre entreprise? T'sais? Mais bon, c'est ce que j'aime faire. T'sais? Mais là, je l'ai dit à tout le monde, j'en lancerai plus. J'en ai à peu près une dizaine. Je ne lance plus d'entreprise.
OK, juste 10.
Ben, c'est parce qu'il y en a que je ne suis pas actif du tout. Il y en a, tu sais, dans le fond, l'entreprise où je suis actif, ma ferme, je suis actif. Le site web...
que tu fais actif, là, présentement, ouais.
Exactement, je suis très actif. BoostMe. Et Undies, après des années que je ne me suis pas occupé, j'ai commencé à être actif depuis quelques mois parce que c'est une compagnie qui l'a arraché, puis maintenant, elle va bien. Fait que là, j'ai dit, ah, OK, pas mort. Des fois, on pense que des entreprises sont mortes. Puis les autres, ben, c'est des buildings ou des compagnies de... que j'ai lancé il y a 19 ans par quelqu'un d'autre. Oui, exactement.
Ouais, exact. Ouais. J'adore ça. Puis, parle-nous en ce moment-là, ton plus grand focus, c'est ton site. T'sais, je te vois là en ce moment et tout, qu'est-ce qui se passe avec la transaction. Ça, c'est ton focus actuel. Là.
Ça, puis BoostMe. Mais le site, là, c'est sûr que le site, en ce moment, je mentirais si ça, je disais que ça ne m'occupe pas 5 à 7 heures par jour.
OK. Puis tu fais en ce moment, tu es à quelle phase de ton entreprise? Es-tu encore en phase de départ-analyse ou tu commences à avoir une équipe qui travaille avec toi ou tu le fais par fun puis tu fais tout puis tu touches à tout pour tout comprendre?
Non, non, ma blonde s'occupe de... On travaille ensemble.
Et ouais.
Elle s'occupe de tout le site, là, toute la maintenance du site.
Okay. Et
ouais, ben, elle ne savait pas, elle a appris ça, puis ça marche.
C'est cool. C'est
beaucoup d'ouvrages, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de suivi. Et elle participe aussi à la... Mettons, comme on vend des sons en ce moment pour la Fondation Rêve d'enfant, puis je me suis donné un objectif au mois de mars de faire 5000 sons pour la Fondation Rêve d'enfant. Fait que des fois, des fins de semaine, on peut faire jusqu'à 1000 sons. C'est surtout elle qui fait les sons. Moi, je fais le beurre d'érable. Donc, on a chacun nos spécialités. Là,
c'est très nice.
Mais,
c'est...
mais en même temps, ben, il y a tout le marketing. C'est
qui fait ça? C'est toi qui... Tu t'amuses, là. Très nice.
J'essaye des affaires. Je donne des noms. Des fois, ça marche. Après ça, ça ne marche plus. J'essaye autre chose. Et je m'amuse, honnêtement. Mon cerveau, à moi, il est assez désorganisé. Il est très organisé, en même temps, très désorganisé.
C'est vrai, j'aurais pas cru.
Ben, je suis très comptable, mais en même temps, très... J'ai découvert qu'au fil des années, je suis un artiste. Je le savais pas. J'ai lu un livre à un moment donné, j'ai fait comme... Ah, je suis un créatif, je n'avais jamais pensé. Moi, je pensais que j'étais un informaticien comptable, un peu plat de ses bords.
Un gars de chiffres.
Oui, mais pas du tout. Je reste un gars de chiffres.
Ouais, ouais.
Mon cerveau, il travaille de toutes sortes de niveaux. Puis à un moment donné, si vous me suivez sur ma page, ben, c'est mon cerveau, à un moment donné, qui a une idée, je vous la lance. Autant une idée entrepreneuriale, autant un statut entrepreneurial, autant une opinion.
Mm-hmm.
Puis, des fois, je suis persuadé que ça va faire réagir le Québec au complet, puis ça fait absolument rien. Et des fois, tu écris quelque chose, tu dis, bah, ça ne marchera pas, mais bon, je vais juste entretenir ma page en faisant un petit statut léger, et là, ça décolle. Comme ce matin, j'ai fait un statut sur les autos électriques. Honnêtement, moi, je m'en allais au gym, et je pars de chez moi, je vais au gym à 8 heures, je pars de chez moi à 7h15. Il est 7 heures, je n'ai rien écrit encore, j'ai lu les journaux. Puis là, je fais comme, ah, oh, regarde, moi, juste donner mon opinion là-dessus, puis t'affaire, les subventions aux auto-électriques. Moi, je pense que ça ne marchera pas, mais ça génère du trafic, parce qu'avec Facebook, il faut poster 5-6 fois par jour si on veut se maintenir dans les... Donc, c'est une question de stratégie, puis j'écris. Et c'est complètement fou.
ça décolle. Ça
prend le plus de un mois. Puis tu peux jamais le savoir. Il y a des fois que je triche sur Facebook. Il faut savoir comment tricher Facebook.
Comment tu
triches
Facebook?
Ben, c'est parce que si ton statut ne pogne pas en partant, Facebook ne le présentera pas à personne.
Non, exact.
Donc, si je veux un statut que je vais parler d'un entrepreneur, mettons quand je fais des statuts entrepreneuriales, puis je veux que les gens aient une belle visibilité, je ne veux pas que ça tombe à l'eau, donc je vais leur dire, je vais le faire, le statut, puis j'ai carte blanche. Hein? Quand j'écris une affaire sur un entrepreneur, mettons, je te parle, toi, pendant une heure, tu me parles de tes affaires, ça va me prendre 5 heures, ça va me prendre 36 heures, ça va me prendre 3 semaines. Puis à un moment donné, j'ai un flash avec toi et je vais l'écrire à ma façon. Tu n'as pas un mot à dire. Si tu veux que j'écrive quelque chose, c'est moi qui décide. Okay. Puis à un moment donné, ben, ça sort de façon humoristique, de façon pour que ce soit inspirant puis humoristique. Puis à un moment donné, j'ai trouvé. Donc, quand je l'ai trouvé, moi, puis je l'écris, je le dis tout de suite aux entrepreneurs, il faut voir mon statut, avertis tes amis, like, partage. Mmh, et écoute, c'est fait. Là, Facebook le présente à tout le monde, puis les gens peuvent avoir une visibilité de 80, 100, 150 000 personnes qui ont vu leur statut, et c'est le but recherché. Le statut peut être très bon, mais juste poster au mauvais moment. Mmh. Et il va tomber dans le beurre. Puis c'est plate lorsque je prends le temps de promouvoir et de raconter une histoire entrepreneuriale. Il marche déjà bien mes histoires entrepreneuriales, mais quand je veux m'assurer, je le dis aux entrepreneurs, fais un like. Moi, je dis à des amis qu'ils fassent un like, puis un partage, puis le Facebook,
ils pensent
que ça part de suite. Et c'est ça qui est important.
Oui, c'est ce qu'on veut, offrir de la visibilité. Puis parlant de Facebook et des commentaires, tu suscites beaucoup d'interactions, puis des fois, il y a des débats qui se forment sur tes posts. Ça part, là, comme des centaines de milliers de personnes qui voient ça. Comment tu deals avec tout ça? Est-ce que ça passe dans le bar, on s'en calisse bien raide? Ou comment tu deals avec ça? C'est ça.
Quand j'ai commencé à écrire sur ma page, j'ai commencé à écrire parce que je faisais de la radio à Radio 9. C'est 91.9 maintenant qui est devenu sport. Et c'était dur de préparer un sujet économique une fois par jour qui prenait 15 à 20 minutes de temps d'antenne. Ça pouvait me prendre 6, 7 heures, 8 heures à préparer le statut. Puis j'ai dit, écoute, il faut que je trouve une autre solution. Donc, j'ai commencé à écrire des morceaux de ma chronique avant d'aller faire la chronique sur Facebook. Et là, les gens me donnaient, hey, comme ça, mais ils ne savaient pas, eux autres, c'était pour le réutiliser. Donc, je partageais. Et il y a un moment donné, j'ai partagé un texte sur les assistés sociaux qui a dérapé solide. C'était vu par 4 millions de personnes. Et j'ai fait comme, je fais juste rapporter une nouvelle. Cette fois-là, je l'avais trouvé dur en 2014 parce que c'était trop intense. Là. Je veux dire, le monde venait me décapiter. J'ai fait comment? J'ai juste rapporté une nouvelle qui se passe au Kansas. Puis j'ai dit, y penser, c'est pas pire. Et la phrase de la fin, j'ai compris que la phrase du début, la phrase de la fin était très importante. Et l'intérieur, le monde s'en balance bien raide. À partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, non, si j'écris, moi, je m'en fous comme l'an 40. Honnêtement, là, je peux te dire, ça me dérange absolument pas les commentaires. Si je vois que ça dérape sur ma page, je vais te bloquer. J'ai pas besoin de te donner des avertissements. Je te bloque, va-t'en ailleurs. J'accepte les débats, j'accepte pas les insultes puis les menaces. Ça, je n'accepte pas ça. Et ça m'arrive à l'occasion, ça m'arrive une fois de faire une plainte en police. Et le gars est devenu une de mes amies maintenant.
Tu l'avais raconté?
Oui, oui, ça, je l'ai raconté parce que bon, je savais pas, moi, qu'il y avait un problème de boisson puis qu'il était un peu cinglé, le gars, quand il était en boisson. Puis quand il me menaçait de mort, j'y vais à face. Il y avait un mohawk, des tatous jusqu'à sa tête. Je le crois. Si toi, tu me menaces de mort, je vais dire, je te crois pas.
Tu ne me trouves pas menaçante.
Non, tu peux être la plus folle sur la terre, là. Mais mettons, je te regarde, je te donne confiance. Mais bon, je viens d'écouter Dirty John sur Netflix.
Ouais.
Dirty John, c'est un gars qui paraît bien, que fourrer littéralement, financièrement, un paquet de femmes. Donc, il faut tout le temps se méfier du look, mais admettons que le look, on part avec le look, puis t'inspire confiance.
Bon.
Lui, il n'inspirait pas confiance pantoute.
Non, clairement.
Et j'ai eu peur. Donc, je suis allé voir la police, puis bref, il m'a retexté entre-temps que la police commence à faire son travail, et j'ai décidé, écoute, t'es pas si cave que ça, va t'excuser. Bingo. Puis il m'a écrit il y a un mois pour me dire, François, il dit merci. J'ai réalisé qu'en parlant avec un être humain, parce qu'il dit avant moi, quand j'insultais quelqu'un, c'était à coup de batte, à coup de bataille, puis je me ramassais en prison. Et toi, tu m'as réveillé et j'ai réalisé que j'avais un problème de boisson sérieux, puis toi, au lieu de venir me battre, tu m'as parlé. Et j'ai changé. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Je savais pas que j'avais à le changer de toute façon, mais ma façon de l'approcher, il a vu que, OK, regarde, il y a du monde civilisé, puis il y a moyen de changer. Il y a un deuxième enfant aujourd'hui, puis la vie va très bien. Et il y a une autre personne, puis je l'ai averti en fin de semaine sur Facebook, c'est la dernière fois. Ça s'appelle Stéphane Gendron. Et Stéphane Gendron, c'est la dernière fois qu'il écrit à sa gang de Mongols sur son Facebook de venir m'écœurer. Ça, j'ai pas de patience pour ça parce qu'il incite les gens à la haine. Et regarde, moi, je peux très bien pas t'aimer. J'ai le droit. Ça m'appartient.
Exact.
Mais si tu demandes à ta gang, allez vomir sa page de François Lambert pour lui dire comment qu'on le déteste. Là, t'incites à la haine et tu sais pas quel coucou va dire moi, parce que des fois, il y a-t-il dans la gang, là, Il y en a un qui dit « Moi, je vais aller casser la gueule. » Mais lui, il va venir me casser pour vrai la gueule.
Ouais.
Et ça, ça n'a pas sa place dans notre société. Et ça, je ne tolère pas ça. Mais pour les commentaires, là, la plupart du temps, là, je m'en balance bien raide. Et je revire ça toujours humoristiquement. Si je vois que tu étais un peu dérapé, comme un matin, il y en a un, j'ai écrit ses autos, puis il y en a un matin, il m'envoie, il dit « On dirait que t'es pro-climat, toi, t'es vraiment fatiguant que tu ne crois pas au changement climatique. » Là, je regarde, je dis « OK, on est en 2019, il me suit depuis 2012, il n'a pas dit de coucou comme ça à chaque fois. » Fait que là, j'y écris, je dis « André, m'a donné une seule chance parce que ça fait 7 ans que tu me suis, là. Ben, arrête de penser que je pense que la Terre est plate, là. OK, c'est pas à cause que je dis que je veux pas de subventions aux autos électriques que je suis contre les changements climatiques, là. Ça n'a aucun rapport. J'utilise ton cerveau. Mais autrement, moi, ça ne me dérange pas. Ça affecte plus mes enfants.
C'était ma prochaine question.
Ma blonde, eux autres trouvent ça tough là, de voir toute la haine qui est véhiculée sur moi. Parce qu'il y a des gens qui me détestent. Mais tu sais, moi, pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que ces gens-là qui me détestent, là, ben, dans la vraie vie, s'ils me rencontrent sur la rue, ils vont être les premiers à venir me voir et me demander une photo.
Ouais.
Hey, j'aime bien ça ce que tu écris. Mais tu sais, t'es dérangé un peu, là. T'sais? Ça veut dire que je te déteste en tabarnouche. Mais là,
t'es là.
T'as pas l'air d'un cave. Donc, tu sais, ça change totalement rapidement.
Ouais.
C'est pour ça que ça me dérange pas. Ça m'est arrivé une fois au Salon du Livre de Montréal dernièrement, qu'il y a un gars qui est venu m'engueuler comme du bois pourri parce que j'avais chicané Catherine Dorion. J'avais dit à Catherine Dorion, de Québec solidaire, qu'elle était mal habillée. Et là, lui, il était venu m'engueuler parce que j'étais au salon du livre en jeans. Un imbécile. Ah. Hein?
OK, il y en a tous les
gens. Ouais, mais ça me dérange pas. C'est juste un gars qui voulait me craquer, puis à l'occasion, je réponds. Hein? Et à l'occasion, ça me tente de craquer.
T'as-tu toujours été, tu sais, comme quand t'as parti tes business dans cet univers-là, tu viens de le nommer en fait que t'es quelqu'un qui aime ça, de partir from scratch, à faire les choses. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Ça t'a jamais vraiment atteint l'opinion des autres pendant dans ton processus? Oui, des fois,
c'est... Ben, ça vient... Tu me vois-tu bien? Excuse-moi, là.
Ben oui.
Ouais, OK. Parce que j'ai comme touché à quelque chose, mais c'est pas grave. l'opinion des gens m'a jamais... j'ai accepté que la façon que je suis, c'était mieux de pas me déranger, tout simplement. Et honnêtement, ça me dérange pas. Je sais que j'attaque pas des gens, j'attaque des idées. Et si t'es pas d'accord avec mon idée, c'est bien parfait. C'est normal de pas être d'accord avec les idées de tout le monde. Mais moi, j'attaque que des idées et c'est très, très rare. Quand je vais vraiment parler de quelqu'un sur mon Facebook, c'est pour répondre à une attaque au préalable. Si quelqu'un écrit sur son Facebook que François Lambert, c'est un débile, je vais réécrire sur mon Facebook que
cette personne-là,
c'est un débile. Là, c'est vraiment de l'enfantillage, je l'accepte complètement. Mais il y en a deux, trois comme ça qui sont coucou. Et je vais tout le temps répondre, j'attaquerai jamais. Puis honnêtement, ça me dérange pas parce que je le sais qu'en dedans de moi, je suis pas une mauvaise personne. Je sais que je suis pas méchant, j'en veux pas de mal à personne et je sais ce que je fais dans à tous les jours. Et donc, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Parce que je le sais que c'était pas ça. Puis si je me trompais, là, OK? Je suis assez grand pour appeler la personne pour m'excuser si j'allais trop loin envers une personne, mais c'est jamais arrivé. Même quand j'ai dit à Catherine Dorion qu'elle était mal habillée, elle avait compris ce que je disais. Que dans le fond, son look de BS, je ne la traitais pas de BS, c'est une expression purement québécoise. Et elle, on s'est reparlé, on s'est rencontrés dans un bar, puis elle est venue me voir, puis on en a ri de elle a compris ce que je voulais dire, puis elle s'en foutait, là. T'sais, elle savait bien que je n'étais pas méchant. Là. Fait qu'honnêtement, non, ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. Honnêtement, quand je dis, puis je suis vraiment sincère, là, j'ai beau lire des fois là, 4000 commentaires sur un statut, et je vais les lire. Moi, je vais les lire. Hein?
Ah, tu les lis toutes?
Ah, j'ai lu toutes. Moi, le vendredi soir, supposons, j'arrive au chalet, je me verse un verre de vin, puis là, je fais ma revue de la semaine. Et je fouille sur Facebook qu'est-ce que les gens peuvent m'écrire sur moi. Et des fois, je découvre des bijoux. Et puis, honnêtement, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Je sais qu'au point de vue de l'image que ces gens-là ont de moi, je suis un millionnaire qui est au-dessus de tout, qui profite de certaines personnes. Il y a une mentalité comme ça au Québec et c'est pas de leur faute à eux. C'est tout simplement que ils lisent les journaux puis ils pensent que c'est comme ça. Ça ne me dérange pas.
Wow! Puis, hey, ça fait déjà 50 minutes qu'on jase ensemble, fait que je ne veux pas prendre plus de ton temps. Je suis déjà vraiment contente. Je vais finir avec une question qui me vient en tête puis je le prends vraiment de façon égoïste, cette question-là. C'est Si tu avais donné un conseil à une personne en ce moment qui est en train de se lancer en affaires ou dans ses débuts, là, bébé entrepreneur, les trois premières années là, de sa business, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire que ce soit... Bref, je te laisse répondre à ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire?
Bien, les trois premières années sont critiques dans une entreprise parce que on est fatigué. On voudrait, après un an, on dit que non, ça ne va pas encore à mon goût. C'est assez rare que les entreprises décollent à pleine fusée. Il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. Même Uber, aujourd'hui, on pense que c'est un succès. Ça fait 10 ans que ça roule. Tu sais? C'est pas un overnight success. Dans le fond, c'est que 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success, tout simplement. Et c'est qu'il faut mettre les heures, mais des heures intéressantes. OK? Des heures qui ne sont pas... faut pas perdre notre temps. Tourner en rond notre sourire, puis à chercher à un moment donné, tu décroches quand tu ne trouves pas l'idée, puis tu fais autre chose. Mais les trois premières années, il faut que tu persévères. Il n'y a rien. Si ça ne va pas bien, il faut que tu fasses la différence entre l'acharnement et la persévérance. Et ça, je ne peux pas te donner la recette parce que c'est seulement la personne qui est dans son entreprise qui va déterminer. Je suis en mode persévérance. C'est rapidement, la persévérance, là, c'est lorsque tu travailles fort, tu n'es pas encore assez rentable, tu n'es pas capable de te payer un salaire qui a de l'allure, mais tu gagnes de plus en plus des petites parts de marché, mais ça prend du temps. Ça, c'est de la persévérance. L'acharnement, là, tu n'as pas un maudit client, il n'y a personne qui achète tes affaires ou il y en a une fois de temps en temps et tu t'obstines, puis tu t'obstines, puis tu t'obstines, puis tu perds de l'argent. Ça, c'est de l'acharnement. Mais ça se peut qu'après 3 ans ou 4 ans, tu as trouvé ta recette, tu as trouvé ton nid et tu as trouvé ta façon d'aller chercher des clients et le bouche-à-oreille se fait. Parce que regarde, même avec une de mes compagnies, hier soir, j'ai eu un meeting. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce compte-là, depuis le lancement de l'entreprise, ce qui est Boost Me. Ça fait 3 ans là, que j'essaie d'approcher ces gens-là. Je ne suis pas capable. Mais j'ai planté des petites graines. J'ai semé à gauche et à droite. La semaine passée, je reçois un appel. Ils veulent manger avec moi. Je suis allé manger avec eux hier soir. Et trois semaines, je devrais avoir la grosseur du contrat qu'on va avoir ensemble. Ça a pris 3 ans. J'ai toujours été respectueux. J'ai fait mes suivis parce que on va se faire dire non en moyenne 6 fois. Ça se peut que, admettons, si tu ne te fais pas dire non, si tu te fais dire non seulement 4 fois, abandonne pas. Les gens, là, tant que tu n'as pas eu 6 fois un non, ben continue. Comment? Ben retrouve, refais ta phrase. Reviens pas une minute après. Là. Des fois, moi, mes enfants, tu vas-tu me lever demain matin? Je dis oui. Ben, tu vas-tu me lever demain matin? Oui. À quelle heure? Ben, à l'heure que tu veux. Ben, 6 heures. Mais tu vas-tu me réveiller? Écoute, Alexis, fait 4 fois, tu me le demandes en 15 secondes, là. OK? Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a un travail de long. Tu sais, supposons que je veux faire affaire avec toi. Puis là, tu me dis, ah non, regarde. Là, je peux m'en aller chez nous. Puis je dis, ah, même pas. Puis elle veut pas faire affaire avec moi. Puis là, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Non, parce que au moment que je te présente, t'es pas prête. Parce que c'est ça, il faut que tu sois prêt aussi. Et c'est ça que les entrepreneurs, à l'occasion, oublie des fois des grosses entreprises, ils ne sont pas prêtes pour vous autres. Ils ont peut-être peur, tu es peut-être trop petit, mais après 3 ans que tu es en affaires, tu as une certaine crédibilité. Après 3 mois, tu n'en as pas de crédibilité. Tu n'en as tout simplement pas. Tu ne peux pas dire aux gens « fais-moi confiance ». Et d'ailleurs, on ne fait pas confiance. Les clients nous prêtent leur confiance. Et la beauté d'un client, c'est qu'il peut reprendre sa confiance, puis te l'enlever et la prêter à quelqu'un d'autre. Ne perdons jamais de vue que le client ne fait pas confiance, il nous prête sa confiance et il va décider à qui il va faire confiance. C'est lui qui décide. Et d'ailleurs, le client est la seule personne qui peut congédier tout le monde dans une compagnie en prenant son pouvoir d'achat en allant ailleurs, tout simplement. Il est la seule personne qui peut congédier du gars au manufacturing, au shipping, jusqu'au CEO en mettant son argent ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Et puis tout ça, lorsqu'on départ, lance une entreprise, qu'on soit jeune ou moins jeune, il reste une crédibilité. Cette crédibilité-là prend à peu près 3 ans. Et c'est pour ça qu'après 3 ans, il y a des gens qui vont abandonner. Il y a des gens qui vont abandonner avant, mais il y en a après 3 ans qui vont abandonner, alors qu'ils sont peut-être rendus où ce qu'ils devaient être. Il faut qu'ils persévèrent une autre 4e année s'ils ont eu un minimum de persévérance dans les 3 premières années que ça a bien été. Là, c'est le moment de pousser à fond. Après 3 ans, là, si tu n'es pas capable encore d'avoir de la crédibilité, tu n'auras jamais. Jamais, 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 jamais. Change, retourne travailler à quelqu'un, abandonne, fais autre chose, mais c'est ça. Les 3 premières années sont tellement lourdes, sont tellement pas payantes et décourageantes à l'occasion, mais à un moment donné, pouf! Donc, comment ça se fait? Mais tout simplement que la crédibilité est embarquée. Tu as gagné de la crédibilité, puis tu t'es fait peut-être dire non 5-6 fois et rendu après 3 ans, parce que c'est à peu près ça un cycle de vente à l'occasion pour convaincre quelqu'un, ça va prendre 2 ans, 3 ans. Puis à un moment donné, tu le rappelles ou la personne se souvient de toi. Se souvient de toi et se dit, bien, gardons ça. Tu sais, regarde sur l'autoroute. Bon, moi, j'ai un chalet dans l'Outaouais, j'habite Montréal. Je reviens en fin de semaine et je vois la publicité du 98.5 avec Paul Arcand. Est-ce que quelqu'un au Québec ne sait pas que Paul Arcand fait la radio le matin? Mm-hmm. Tout le monde le sait. Et pourtant, il y a encore un billboard gros 20 par 40 ou 20 par 80 qui est en train de nous dire que Paul Arcand fait de la radio de 6h, de 5h30 à 9h le matin, à 10h le matin. Mm. C'est quand même spectaculaire. C'est qu'il faut qu'on le rappelle aux gens. Quand même, t'es on top. Faut que tu le rappelles aux gens que t'es là parce que tu dois continuellement gagner des nouvelles parts de marché parce que tu veux pas non plus que ton audience vieillisse. Tu veux pas qu'il y ait toujours les mêmes clients qui font du repeat business. Mm-hmm. En affaires, t'as besoin et du repeat business et des nouveaux clients. Tu veux pas juste avoir des nouveaux clients parce que si t'as pas de repeat business, ils sont en train de dire à tout le monde, va pas acheter là, ça coûte trop cher et le produit n'est pas de qualité. Si t'as pas de repeat business. Et si t'as juste de repeat business, ben c'est parce que, un, t'as pas fait de ces gens-là des ambassadeurs. Et où tu ne fais pas de la pub puis tu roules juste sur des vieux clients puis à un moment donné, ton entreprise, il n'y aura pas de nouveau marché alors que tu as manqué ton coup. Donc, c'est les deux que ça prend et ça prend de la pub constamment et ça va prendre 3 ans dans n'importe quoi. Si tu te lances à l'affaire, tu penses que après 3 ou 4 ans, après 3 mois, ça va marcher, ça ne marchera pas. Et si tu abandonnes après 3 ans, tu abandonnes. Si tu es rendu jusqu'à 3 ans, c'est qu'il y avait des raisons que seul toi tu connais, t'offres donc une 4e année. Il y a peut-être là ta réponse. Si c'est pas là, ben passe à autre chose. Lance une autre entreprise, fais autre chose, mais c'est le temps de passer à autre chose.
Hey, merci à toi. Merci. Ça fait merci. Une conclusion pour tout ça. Donc, nous, on peut te suivre, François, tes réseaux sociaux, tu m'as dit Frank SBR
sur Facebook. Frank _ SBR, Facebook François Lambert. Et Twitter, je ne vais même plus. Je suis là, mais c'est juste la chicane. Je vais lire les nouvelles.
Hein? Puis ton site internet, ton Shopify là, qui est en gros momentum.
FrançoisLambert.one. Puis riez pas de moi avec mon .one. .com.ca, .qc.ca, .co était tout pris. Et je cherchais un... Je voulais avoir mon nom, pas François-Lambert, Frank Lambert. Tu sais, mon nom, c'est François Lambert.
.one, the only one.
Bien, c'était nouveau. Honnêtement, ça faisait comme une semaine que le .one était sorti. Puis j'ai fait comme maudit que ça fait prétentieux, mais... Fuck it,
Jolene. On le prend. J'adore ça. Fait que vous pouvez suivre François sur tous tes réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast-ci et on se voit la semaine prochaine avec un autre invité passionné. Merci à vous et on se voit au top. Bye bye.